VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 4 juillet 2019, fête nationale des États-Unis. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Alberson.
Nous commençons par les titres.
Au Niger, un dispositif spécial de sécurité a été mis en place à Niamey pour le sommet de l'Union africaine qui commence ce jeudi.
En Libye, l'émissaire spécial de l'ONU, Ghassan Salamé, a condamné un carnage ignoble et sanglant après la frappe aérienne meurtrière contre un centre de détention de migrants.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté un projet de nouvelle commission électorale en prélude à la présidentielle de 2020 qui s'annonce tendue.
A signaler en seconde partie un dossier sur la situation au Burundi que guette une nouvelle crise politique selon l'ONU.
Le président américain Donald Trump avertit les Iraniens que leurs dernières menaces sur l'enrichissement de l'uranium peuvent se retourner contre eux d'une façon jamais vue auparavant.
Washington s'apprête à vivre ce 4 juillet, fête nationale américaine, un Independence Day qui sera le spectacle d'une vie, selon le président Trump.
Et en sport, ne manquez pas le journal de la CAN.
Pour l'instant, le journal.
Au Niger, les autorités ont mis en place un dispositif spécial de plusieurs milliers d'hommes pour assurer la sécurité du sommet de l'Union africaine qui commence aujourd'hui à Niamey. Précision d'Irénée Herman Oumbo.
Nous avons un dispositif spécial dans la capitale, a déclaré Mohamed Bazoum, ministre de l'Intérieur du Niger, qui fait face à des attaques récurrentes de groupes djihadistes dans l'ouest et de Boko Haram dans le sud-est. Il n'a pas dévoilé les chiffres exacts, mais a souligné qu'en plus des milliers de policiers, il y avait des milliers de militaires déployés à Niamey. Ce sommet est important pour nous. On a besoin d'avoir une image attirante qui ne nous associe pas au terrorisme, a-t-il indiqué. La rencontre doit réunir une cinquantaine de chefs d'État. La capitale nigérienne est déjà fortement militarisée. Les grands hôtels, restaurants et lieux publics font en permanence l'objet de mesures de sécurité.
À noter que le groupe État islamique dans le Grand Sahara a revendiqué hier l'attaque du camp d'Inates dans l'ouest du Niger, à la frontière avec le Mali. 18 soldats nigériens ont été tués dans cette attaque lundi. Le point avec Morgane Guériec.
Les soldats du califat ont attaqué la base militaire selon un communiqué qui parle de dizaines de morts et de blessés au sein des troupes nigériennes. Selon le message, deux kamikazes se sont fait exploser à l'intérieur de la base. Après, les combattants ont attaqué le périmètre selon le texte qui parle d'une bataille de plusieurs heures. Le groupe État islamique dans le Grand Sahara assure que ces combattants ont fait fuir les soldats, se sont emparés d'armes et sont retournés sains et saufs dans leur position.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté hier un projet de loi pour la mise en place d'une nouvelle commission électorale indépendante en vue de la présidentielle de 2020, un texte dont les travaux préparatifs ont été boycottés par l'opposition. La crédibilité de la CEI est jugée cruciale en vue de la présidentielle de 2020 qui s'annonce tendue 10 ans après la crise post-électorale ivoirienne. Le PDCI de l'ex-président Henri Konan Bédier, les deux tendances du FPI de l'ancien président Laurent Gbagbo, la coalition des partis d'opposition et la société civile demandaient une réforme de cette commission électorale depuis des années.
Internet a été totalement rétabli en Mauritanie avec la fin mercredi du blocage de la connexion mobile interrompue après les heures qui ont suivi la présidentielle du 22 juin. C'est donc un retour à la normale, Raissa Girondin.
L'Internet coupé le 25 juin après les heures qui ont suivi l'annonce des résultats de la présidentielle a été rétabli. Les 4 candidats de l'opposition continuent de contester l'élection au premier tour de l'ancien chef d'état-major Mohamed Cheikh Oud Ghazouani, proclamé vainqueur lundi par le Conseil constitutionnel. L'un des candidats, le militant anti-esclavagiste Biram Dalabed, arrivé deuxième, a appelé hier les autorités à privilégier la paix civile et la tranquillité en libérant les détenus. Les partisans de l'opposition et quelques étrangers qui étaient en détention ont été libérés mardi. Monsieur Ghazouani succédera le 2 août à Mohamed Oul Abdelaziz. C'est la première transition entre deux présidents élus dans ce pays du Sahel qui a souvent été secoué par de nombreux coups d'État.
L'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salameh, a vivement condamné hier le raid aérien sanglant contre un centre pour migrants près de la capitale, Tripoli, un carnage susceptible de constituer un crime de guerre. Il y a eu au moins 55 migrants tués et plus de 132 blessés graves. Et Kabadou.
Ghassan Salameh appelle la communauté internationale à condamner ce crime et à imposer les sanctions appropriées à ceux qui ont mené cette opération en violation flagrante du droit international humanitaire. C'est la deuxième fois que ce centre pour migrants de Tajoura, en banlieue de Tripoli, et où s'entassent plus de 600 personnes, est touché depuis le début de l'offensive lancée le 4 avril par le maréchal Khalifa Haftar. Les forces du maréchal Haftar ont nié leur responsabilité dans cette attaque selon leur porte-parole, Ahmad al-Mesmari, qui accuse leurs rivaux du gouvernement basé à Tripoli de fomenter un complot pour leur faire endosser la responsabilité de ce carnage. La mission de l'ONU en Libye a maintes fois exprimé son inquiétude sur le sort d'environ 3500 migrants et réfugiés en danger dans des centres de détention situés près de zones d'affrontement. La Libye reste un important pays de transit pour les migrants qui fuient les conflits et l'instabilité dans d'autres régions d'Afrique et du Moyen-Orient.
Au Soudan, les généraux au pouvoir et des chefs de la contestation poursuivent ce jeudi les négociations entamées la veille pour discuter de la transition. Cette rencontre, qui se déroule en présence des médiateurs de l'Éthiopie et de l'Union africaine, est la première rencontre du genre depuis la dispersion meurtrière d'un sit-in de manifestants début juin à Khartoum.
En Algérie, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a proposé hier dans un discours à la Nation un dialogue pour préparer la présidentielle, dialogue dans lequel ni les autorités politiques ni l'armée ne seront, selon lui, impliquées. Un mouvement de contestation lancé en avril continue de refuser que le système en place organise la présidentielle et réclame au préalable le départ de tous les anciens soutiens du président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika, ainsi que la mise sur pied d'institutions de transition chargées de réformer l'État et d'élaborer une nouvelle constitution.
En République démocratique du Congo, fin du contentieux électoral, 6 mois après les élections législatives nationales, la Cour constitutionnelle a rendu la nuit dernière à Kinshasa ses arrêts définitifs. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition avec Thierry Kamundi de Talk Congo FM.
Et toujours en RDC, notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila, nous signale une série d'opérations de bouclage menées depuis mardi soir par les FRDC dans plusieurs quartiers de la ville suite à l'insécurité et à la menace Maïmaï Bakata Katanga à l'approche du 11 juillet, date à laquelle Moïse Tshombe avait unilatéralement proclamé en 1960 une indépendance du Katanga.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Des chars d'assaut exposés dans le centre de Washington, la capitale des États-Unis, qui célèbrent aujourd'hui leur fête nationale. Independence Day, cette journée aura une autre envergure, comme le souhaite le président Donald Trump, mais certains déplorent déjà le coup et la politisation de l'événement, Jacques Aristide.
Le locataire de la Maison Blanche fera une allocution sous forme d'hommage à l'Amérique sur les célèbres marches du Lincoln Memorial, d'où Martin Luther King a prononcé son discours « I have a dream ». Le 4 juillet, qui marque le jour de l'indépendance, Independence Day, est une journée traditionnellement apolitique, mais l'intervention du président fait d'ores et déjà polémique, tout comme l'arrivée de plusieurs chars et blindés dans la capitale américaine. Le budget de l'événement est dénoncé par l'opposition démocrate, mais le coût sera mineur, a répliqué Donald Trump. Et en ce début de campagne pour la présidentielle de 2020, des élus du Congrès l'ont mis en garde contre la tentation d'un meeting de campagne partisan et télévisé sur le Mall. Pour le chef de l'exécutif américain, ce 4 juillet va être le spectacle d'une vie, dit-il. Beaucoup de ses opposants prévoient d'être également de la partie.
Et nous y reviendrons en seconde partie de cette édition. Le président Donald Trump a averti hier que les menaces de l'Iran risquaient de se retourner contre la République islamique, Téhéran ayant dit qu'il mettrait à exécution dès dimanche sa menace d'enrichir l'uranium à un degré prohibé par l'accord international sur son programme nucléaire. Attention avec vos menaces, l'Iran, elles peuvent se retourner contre vous d'une façon jamais vue auparavant, a tweeté le président Trump. Fin de ce journal sur VOA Afrique, place maintenant au journal de la Cannes avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le journal de la CAN. Nous sommes la veille des matchs des huitièmes de finale. L'Ouganda et le Sénégal s'affronteront demain à 19h temps universel. Mais bien avant, le Maroc sera opposé au Bénin à 16h. Vous le savez, les joueurs ont besoin de bien manger pour se maintenir en forme et certains pays ont transporté leur cuisine sur place en Égypte. C'est le cas des Béninois. Dans leur maisonnette à Ismaïlia, Adriana et Abiré cuisinent tous les jours des plats du pays pour la délégation et parfois les joueurs. La bonne recette pour aller loin dans cette CAN 2019, eh bien, la réponse dans ce reportage que nous présente Irénée Herman Ngbo.
Sur le feu du Agbeli, une pâte à base de manioc, à côté Adriana Rwandinou fait mijoter des crevettes, du poisson et du crabe dans une sauce tomate. Dans la casserole, c'est du crin-crin qui dégage une odeur irrésistible. Dans leur cuisine étroite, Adriana, 38 ans, et Abiré, 25 ans, laissent libre cours à leur créativité culinaire avec une attention particulière au téliban qu'elle prépare pour les écureuils, le 11 national béninois.
Aujourd'hui, on a fait du téliban avec la sauce de poisson frais et la sauce de gombo. Et à chaque match, on en fait. Ça fait plaisir d'apporter un plus aussi à ce que les joueurs soient compétitifs sur le terrain, pourquoi pas.
Adriana et Abiré nourrissent également les membres de la délégation béninoise.
On a trouvé de bons poissons, ce qui nous a permis de faire du dacoin, de la sauce de poisson frais.
Leur journée chargée qui commence avec des courses au marché et se termine tard après le dîner, en disent long de leur dévouement pour ce qu'elles considèrent comme une cause nationale. Adriana et Abiré arrivent tout de même à abandonner leur fourneau le temps de match, car après la cuisine, leur autre passion, c'est le cuiron.
La CAF a dressé l'équipe type du premier tour, composée des joueurs les plus performants durant les trois matchs de poule joués par chaque pays. Sans surprise, on note la présence de quatre Égyptiens, Mohamed Salah, Ahmed El Mohamadi, Ahmed Egazi et le gardien Ahmed El Shenawy. On y retrouve également le Sénégalais Sadio Mané, seul joueur des Lions de la Teranga, le Ghanéen Jordan Ayou, le Camerounais Yaya Banana et le Malgache Anissé Adrianan. Vous l'avez suivi, pendant les derniers matchs de la phase de poule, toutes les équipes ont observé une minute de silence en hommage à Ndaye Moulamba, qui est cet ancien footballeur congolais depuis Libreville au Gabon. Jules Valentin Ngoué nous en parle dans son coup de sifflet.
La minute de silence qui a précédé le coup d'envoi des matchs de ce mardi a retenu l'attention, sans pour autant réveiller les mêmes émotions selon les générations. Et pour cause, il était demandé à tous de rendre hommage à un joueur mythique de l'histoire du football africain, mort le 26 janvier dernier au Cap, et il s'agit du Léopard Ndaye Moulamba, un joueur énorme des années 70 qui détient depuis 45 ans le record des buts en une seule édition de phase finale de la CAN avec 9 réalisations. L'exploit de Mutumbula, traduisé assassin du Kananga, sa ville natale, défenseur reconverti très rapidement en avant-centre, est d'autant plus appréciable que ce record fut établi à une époque où la CAN se disputait à 8 avec 5 matchs seulement à jouer pour les finalistes. Par ailleurs, en 7 ans de catenaccio aux défenses renforcées et à l'élimination physique des attaquants adverses banalisés, voire autorisés, cet exploit prend encore plus de valeur. Mais qui fut Ndaye Moulamba? Ndaye Moulamba Pierre est né à Lulwabo, actuel Kananga, dans le Kasaï, le 11 avril 1948. Découvert et récupéré par le prestigieux AS Vita Club en 1972, il permet à cet ancien laboratoire de l'équipe nationale du Zaïre de gagner la Coupe des clubs champions dès 1973 et dans la foulée, la CAN qui se joue en Égypte en 1914 où, en 6 matchs, dont une double finale contre la Zambie, il bat ce fameux record inoxydable. Sur le terrain, Ndaye la foudre a comme modèle le bombardier allemand Gerd Müller. Il était cet avant-centre type, ni braconnier, ni fixateur, qui marquait le but assassin qui changeait tout. À la Manga Ongene pour les anciens, ou Didier Drogba pour les générations actuelles. Enfin, la conjonction des circonstances qui entourent l'annonce de sa mort est curieuse, avec le déplacement géographique et chronologique de la CAN dans la douleur en Égypte et en été. Comme si l'assassin de Kananga nous faisait un dernier pied de nez en attirant la compétition sur les terres de son plus grand espoir. Afin de le sortir de l'anonymat dans lequel il est condamné et de l'honorer au bon moment, au bon endroit et là où ça se doit. Ne dit-on pas toujours en Afrique que les morts ne sont pas morts et que le hasard n'existe pas. En attendant, bon vent champion et merci.
C'est tout pour le journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Une nouvelle crise politique guette le Burundi à moins d'un an de l'élection présidentielle. L'avertissement a été lancé par les Nations Unies. Selon la commission d'enquête de l'ONU sur ce pays, le parti au pouvoir tente de harceler et d'intimider les opposants. Et cette commission, composée de 3 membres, appelle le gouvernement burundais à prendre, je cite, des mesures drastiques pour garantir que le scrutin de 2020 soit crédible. De Genève, le compte-rendu de Lisa Schlein de la VOA, repris ici par Jacques Aristide.
Le patron de la commission d'enquête est catégorique. L'espace démocratique se rétrécit de plus en plus au Burundi. Pour l'avocat sénégalais Doudou Diène, les efforts du gouvernement pour convaincre les observateurs que la situation est revenue à la normale depuis la crise politique de 2015 sonnent creux. Le Burundi est en crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un 3e mandat controversé. Il a été réélu. Les violences et la répression ont fait au moins 1200 morts et déplacé plus de 400 000 personnes entre avril 2015 et mai 2017, selon les estimations de la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête. Au pouvoir depuis 2005, le président burundais avait toutefois surpris les observateurs en assurant qu'il ne se présenterait pas à sa propre succession en 2020, alors que la nouvelle constitution adoptée en 2018 le lui permet. Le rapport de la commission onusienne est attendu en septembre prochain, mais les enquêteurs ont fait part mardi dernier de leurs préoccupations devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, alors que le Burundi refuse toujours de coopérer avec eux. Doudou Diène précise que ce sont principalement les opposants et les membres d'un nouveau parti politique qui cherchent à défier le parti au pouvoir, qui sont les victimes d'abus. Il s'est exprimé par le truchement d'un interprète.
Les membres de ce parti subissent régulièrement des menaces et font l'objet d'arrestations, de détentions arbitraires, de passages à tabac, voire d'actes de torture. Ce parti fait face à plusieurs défis dans la conduite de ses activités de base, telles que l'organisation de réunions ou l'ouverture de bureaux.
Le président de la commission d'enquête est également d'avis que les élections de 2020 pourront devenir le théâtre d'une nouvelle détérioration de la situation, notamment si seul le parti au pouvoir est libre de faire campagne et les voix indépendantes sont étouffées. Doudou Diène, à nouveau.
L'histoire électorale du Burundi, y compris lors du référendum constitutionnel de l'année dernière, a toujours été marquée par de la violence et de graves violations des droits de l'homme. Le contexte préélectoral actuel montre déjà des signes inquiétants.
La commission demande au gouvernement burundais de prendre immédiatement des mesures drastiques afin de redonner vitalité à l'espace démocratique nécessaire à des élections crédibles. Cet appel intervient alors que la commission électorale burundaise a fixé la date du premier tour de la présidentielle de 2020 au 20 mai. Renova Tabou, ambassadeur du Burundi auprès de l'ONU à Genève, a rejeté en bloc ces déclarations qui, selon lui, présentent un tableau apocalyptique d'un plan de déstabilisation à l'approche des élections. Il a accusé la commission d'être tombée dans des considérations politiciennes. Elle n'a fourni aucune preuve, dit-il, pour étayer ses dires. Pour l'ambassadeur Tabou, il est facile de mentir quand les vérifications ne peuvent pas être faites sur le terrain. Il qualifie la démarche de la commission d'acte de sabotage.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, fin du contentieux électoral, 6 mois après les élections législatives nationales, la Cour constitutionnelle a rendu la nuit dernière à Kinshasa ses arrêts définitifs. Suite à la grogne provoquée il y a quelques jours par certains arrêts de cette Cour, une chambre spéciale avait été mise en place pour rectifier des erreurs matérielles dont s'était plainte l'opposition. Sur base des recommandations de cette chambre spéciale, certains députés de l'opposition comme de la majorité parlementaire ont pu récupérer leur siège. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La chambre spéciale instituée a pu examiner 178 dossiers introduits en rectification des erreurs matérielles. Parmi les députés de l'opposition réhabilités, on note Chérubin Okende, le porte-parole du coordonnateur de la plateforme Lamuka, Moïse Katumbi. Proclamé par la Commission électorale nationale indépendante, puis invalidé par la Cour constitutionnelle, il récupère son siège à Kinshasa au profit de la députée PPRD Wivil Moleka. Présent dans la salle cette nuit au moment où l'arrêt de la Cour constitutionnelle était rendu, ce dernier qui fait partie des députés de l'opposition qui ont passé quelques nuits devant la Cour pour exiger leur réhabilitation à réagir en ces termes.
Nous allons dire merci ou féliciter le président de la Cour constitutionnelle qui a pris l'engagement solennel de redorer un tant soit peu le blason terni de la Cour constitutionnelle qui est la plus haute juridiction de notre pays.
Dans le même cas que Okende, certains députés de l'opposition ont également récupéré leur siège. Le cas de Raphaël Kibuka du Mouvement de Libération du Congo de Jean-Pierre Bemba au profit de Sylvie Ingele du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, Jean-Claude Kibala d'Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi à Walungu au Sud Kivu ou encore l'ancien journaliste Daniel Safou, un proche de Martin Fayoulou qui nous a également dit sa satisfaction.
Je n'ai pas en train de vivre devant me permettre d'actionner la corruption. Je suis en train de construire mon leadership. Dans la pauvreté, j'ai en train de construire, n'est-ce pas, mon leadership dans la vision du monde. Donc, je ne suis pas du genre d'homme d'aller corrompre, hein, je suis anticorruption. Je remercie le peuple congolais qui est resté le seul gardien, n'est-ce pas, de la Constitution. Ni était le souverain primaire, on ne serait pas arrivé à ce stade.
Aussi réhabilité par la Cour, Daniel Mbao du Mouvement de Libération du Congo salue le travail de la justice qui augure, selon lui, l'avènement d'un état de droit en RDC.
Ça, c'est un acte de conscience profonde. La justice constitutionnelle devait être prouvée par des arrêts de rétractation. Et donc, parce que c'est la première justice constitutionnelle de la Troisième République, cette Cour constitutionnelle. Et nous avons dit, si le président Luamba réussissait, si la Chambre spéciale réussissait, nous, comme doctrinaires, nous allons écrire et ça fera date et on fera de ceux qui composent cette juridiction, de ce que le jeune Béninois ont fait du professeur Robert Dosso.
L'artiste et musicien Jean Goubal Kalala du regroupement de Martin Fayoulou, proclamé par la CENI, puis invalidé par la Cour, n'a par contre pas pu récupérer son siège. C'est le FCC Pierre Kangoudia qui remporte la bataille juridique qui les opposait. Au sein du Front commun pour le Congo également, Néron Bungu, l'actuel vice-gouverneur de Kinshasa, est validé à Kinshasa au détriment du journaliste Ludor Balekelaï. Papi Pungu, cadre du PPRD de Joseph Kabila, invalidé. Et à Goma, Prince Mundega a été invalidé au profit de Patrick Mounioumont. Après avoir rendu nuitamment ses arrêts, la Cour constitutionnelle va publier les arrêts définitifs des élections législatives nationales et sénatoriales ce jeudi 4 juillet 2019. Kinshasa. Thierry Kamoudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Retour sur le raid en Libye contre un centre de détention où étaient entassés des centaines de migrants à Tajoura, près de Tripoli. Une cinquantaine de migrants ont été tués et une centaine blessés dans cette frappe qui s'est produite dans la nuit de mardi à mercredi. Un acte attribué par le gouvernement d'Union nationale aux forces du maréchal Khalifa Haftar est dénoncé comme un possible crime de guerre par l'ONU qui a demandé une enquête indépendante. Comment expliquer une telle violence contre un centre abritant des migrants? Au micro de Morgane Guériec, la réponse de Romain Desclous, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour l'Afrique de l'Ouest.
Cette question, nous la posons, c'est un camp de détention. Et dans ce camp de détention, il y a des migrants, mais également des réfugiés. Le nombre de vies perdues et autant de décès est effroyable et ça nous choque. C'est d'autant plus intolérable que la localisation de ce centre de détention était connue de tous, les parties prenantes au conflit. Les coordonnées exactes étaient connues. Les parties savaient qui était dans ces centres de détention. Il s'agit de personnes civiles. Donc, nous sommes choqués, nous sommes... C'est effroyable, voilà.
Les parties prenantes au conflit libyen ont-elles pour habitude de s'en prendre aux migrants?
Ce centre de détention était sur la ligne de front. Le HCR et ses partenaires ont déjà alerté depuis le début des hostilités à Tripoli que ces centres de détention étaient présents et les personnes qui sont dans ces centres étaient à risque d'être pris pour cible ou être victimes collatérales des échanges de tirs des parties prenantes. Et à ce titre, justement, nous avons effectué l'évacuation de certains de ces centres qui étaient directement menacés sur la ligne de front vers d'autres endroits dans la capitale pour nous permettre de leur donner accès aux soins, à la sécurité et à la santé et éventuellement les évacuer vers un autre pays pays pour une réinstallation future.
Donc en fait, ça fait longtemps que vous alertez sur les risques d'un incident de ce type.
En effet, depuis les débuts d'hostilité à Tripoli, nous alertons constamment les parties prenantes sur les risques que les personnes dans les centres de détention auxquels ils sont exposés. Et là encore, les conditions de vie dans ces centres de détention sont au mieux inhumaines. Il est impératif que la détention des migrants et des réfugiés cesse.
Des conditions de détention inhumaines, pourriez-vous élaborer ?
Les personnes sont torturées, n'ont accès ni aux soins, ni à la santé, accès rare à l'eau, à la nourriture, conditions d'hygiène déplorables.
Sachant que la Libye est en conflit et qu'il y a beaucoup de problèmes, est-ce que c'est un État qui peut prendre en charge les migrants ?
Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'a mentionné à maintes reprises et nous le rappelons régulièrement et c'est hélas encore l'occasion pour nous de le rappeler. La Libye n'est pas un endroit sûr pour ramener migrants et réfugiés.
Quel est votre message aux candidats africains à l'immigration vers l'Europe qui nous écoutent en ce moment ?
Le HCR a pour mandat la protection des réfugiés et des personnes qui fuient la persécution et les conflits. Pour ces personnes-là, la situation en Libye est délicate, dangereuse et ce que nous faisons, et d'ailleurs nous travaillons avec tous nos partenaires en amont, dans la zone d'Afrique de l'Ouest et du Centre, pour s'assurer que les personnes qui ont des besoins de protection internationale puissent accéder à cette protection en amont, savoir pouvoir demander l'asile dans un pays qui puisse l'offrir. Et pour ceux qui sont en Libye, il s'agit de trouver des voies alternatives et des évacuations vers des pays tiers qui pourront leur offrir cette protection internationale.
Romain Desclou, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour l'Afrique de l'Ouest.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Washington se prépare donc pour la fête nationale des États-Unis, célébrée ce jeudi 4 juillet. Independence Day, cette année, les célébrations sur l'esplanade seront bien différentes. Le président Donald Trump a décidé de prononcer un discours à la nation et il a aussi ordonné l'exposition de chars d'assaut dans le centre de la capitale. Ce qui n'est pas du goût de tout le monde, Lionel Gahima.
Chars de combat et véhicules blindés et survol d'avions de guerre du jamais vu pendant la fête nationale dans la capitale fédérale américaine. Jamais non plus il n'y a eu de discours présidentiel à cette occasion. Mais le président Trump tient à avoir une célébration pas comme les autres et assure qu'il veut honorer l'armée américaine. Ses critiques l'accusent de politiser un événement unificateur de la nation, mais d'autres Américains s'en réjouissent. Venu de la ville d'Abilene en Arkansas, John Wigo est en visite à Washington.
Je pense qu'il est le président et qu'il a l'obligation de parler à son peuple. Si c'est ce qu'il veut et souhaite faire des marches du mémorial Lincoln, je suis entièrement d'accord.
Monsieur Trump a dit ouvertement qu'il a été très impressionné par ce qu'il a vu à Paris le 14 juillet 2017 lors de la fête nationale française. Depuis, il a souvent répété qu'il voulait la même chose à Washington. Durant le récent sommet du G20 à Osaka au Japon, le président Poutine l'a même invité à une parade militaire à Moscou. D'après Yuri Ushako, conseiller du président russe, Monsieur Trump a écouté avec beaucoup d'intérêt.
Nous avons invité le président des États-Unis à venir assister au 75e anniversaire de la victoire au terme de la Seconde Guerre mondiale le 9 mai de l'année prochaine. Le président américain a réagi très positivement.
Certains Américains s'interrogent sous le coup d'une parade militaire pour le contribuable et d'autres froncent les sourcils devant le goût du président pour les parades militaires. Certains opposants ont même obtenu l'autorisation d'amener sur le National Mall un énorme ballon représentant Trump comme un bébé, comme celui déployé à Londres pendant sa visite. Ce qui n'est pas non plus du goût de tout le monde. Jason Ballard est originaire du Missouri.
Nous sommes venus ici après trois semaines de route depuis Kansas City, dans le Missouri. Cette fois-ci, nous sommes venus pour voir les feux d'artifice du 4 juillet.
Et les feux d'artifice de l'Independence Day, c'est l'un des plus beaux spectacles à voir dans le ciel de Washington.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, zoom sur la monnaie ouest-africaine que les 15 pays de la CEDEAO entendent mettre en place en 2020. Ce projet, vieux de plus de 35 ans, a pour but de faciliter les échanges et aboutir à une meilleure intégration régionale. Les 8 pays ouest-africains utilisant le CFA sont-ils prêts à abandonner leur monnaie commune pour l'éco? Tous les pays seront-ils prêts à temps? Quels sont les critères de convergence pour intégrer la zone éco? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Réagissez également sur la page Facebook de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VO Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Vous étiez en compagnie d'Anne Albertson, de Jimmy Cook et d'Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VO Afrique.